Chapitre 3. Sur ces entrefaites, le duc d'Alençon mourut subitement à Château-Thierry. Personne ne douta qu'il n'eût été empoisonné. Pourquoi ne pas croire qu'il mourut tout simplement de la maladie dont étaient morts François II et Charles IX, dont étaient morts leur grand-père paternel, François Ier, et leur grand-père maternel, Laurent II de Médicis? La maladie rapportée d'Amérique par Christophe Colomb a causé de grands malheurs sans doute, mais on lui doit une certaine reconnaissance cependant quand on songe qu'elle nous a débarrassés des Valois. Le duc d'Alençon, à propos de la mort duquel nous faisons cette digression, en était tellement atteint, même dans le ventre de sa mère, qu'il vint au monde comme les chiens anglais avec deux nez. Henri III n'y échappa que parce que, selon toute probabilité, il était le fils du cardinal de Lorraine. Le cardinal de Lorraine fut cruellement puni de sa double infraction aux lois de l'Église et de la société. Son fils le fit tuer à Blois avec son frère le duc de Guise le 24 décembre 1588. Revenons à nos moutons dont cette petite digression médico-historique nous a éloignés. La guerre recommença de plus belle. Cette fois, Henri de Navarre avait double guerre. Guerre contre son beau-frère Henri III, guerre contre la reine Marguerite. Celle-ci s'était retirée dans sa bonne ville d'Agen, comme nous avons dit. Mais sa conduite, plus que légère, la fit mépriser des habitants, tandis qu'en même temps ses extorsions la rendaient odieuse. Les Agénois adressèrent directement des messagers au roi de Navarre, le priant d'envoyer quelques capitaines pour prendre leur ville et ajoutant qu'ils donneraient bien volontiers les mains à cette prise. Henri alors envoya M. de Matignon et la ville fut prise et forcée si lestement que la reine de Navarre n'eut que le temps de monter en croupe derrière un gentilhomme nommé Lignerac, Madame de Duras derrière un autre, et de se sauver en toute hâte. On fit ainsi 24 lieues de pays en 2 jours. Puis on se retira à Carlat, forteresse des montagnes d'Auvergne, où Massé, frère de Lignerac, offrit en sa qualité de gouverneur un asile à la reine. Elle était en ce moment poursuivie à la fois par son frère et par son mari. Les habitants de Carlat, qui n'avaient pas pour elle de meilleurs sentiments que n'en avaient eu ceux d'Agen, résolurent de la livrer à son mari. Par bonheur, elle apprit le complot à temps et se sauva. En se sauvant, elle tomba aux mains du marquis de Canillac qui la conduisit au château d'Usson, près la rivière d'Allier, à 6 lieues de Clermont. Canillac était jeune, Marguerite était toujours belle, et ce fut, au bout de 8 jours, Canillac qui fut prisonnier de sa prisonnière. Cependant, pour avoir fait Canillac prisonnier, Marguerite n'était point libre. Sa cage s'était agrandie, voilà tout, et les limites de sa liberté étaient les murailles de sa forteresse. La place était imprenable, mais Marguerite n'en pouvait sortir, et elle y resta 20 ans, c'est-à-dire de 1585 à 1605, époque où elle reparut à la cour. Laissons-la donc à Usson, et suivons dans ses nouvelles amours Henri de Béarn, qui s'approche tout doucement de l'époque où il deviendra Henri IV. Nous avons dit que, dans la hiérarchie, ou, si l'on veut, dans la chronologie des amours de notre héros, la belle Corisande succéda à la belle Fosseuse. Diane d'Andouin, vicomtesse de Louvigny, plus connue sous le nom de Corisande, avait épousé, très jeune, Philibert de Gramont, comte de Guiche, grand-père de ce Gramont qui, par la plume de son beau-frère Hamilton, nous a laissé de si charmants mémoires. À l'en croire même, il pourrait bien être petit-fils de Henri IV, car voici ce qu'il dit à ce sujet. « Ah, que tu fais le mauvais plaisant! Tu t'imagines que je ne connais pas les Méridors, ni les Corisandes, moi? Je ne sais peut-être pas qu'il n'a tenu qu'à mon père d'être fils de Henri IV. Le roi voulait à toute force le reconnaître, et le traître d'homme n'a jamais voulu y consentir. Vois un peu ce que seraient les Gramont sans ce beau travers. Ils auraient le pas devant les Césars de Vendôme. Tu as beau rire, c'est l'Évangile. » Cependant, selon toute probabilité, le chevalier de Gramont se vantait. Henri IV avait bien vu Corisande une première fois en passant lorsqu'il s'était échappé de la cour en 1576. Mais il ne s'était point arrêté près d'elle assez longtemps pour que son commencement d'amour, si toutefois il existait un commencement d'amour, eut une suite quelconque. Ce ne fut qu'en 1582 ou en 1583 qu'il la revit, c'est-à-dire 2 ou 3 ans après la mort du comte de Guiche, tué en 1580 au siège de la Fère. Force est donc au chevalier de Gramont de rester petit-fils du comte de Guiche et non neveu de César de Vendôme. Quant à la date de ce nouvel amour, Sully se charge de nous la donner. C'était, dit-il, en l'année 1583, époque où le roi de Navarre était au plus chaud de ses passions amoureuses pour la comtesse de Guiche. Quelques auteurs, défenseurs de la vertu de la belle Corisande que compromettait si gratuitement son petit-fils, le chevalier de Gramont, disent que cette vertu resta toujours pure. C'est possible, tout est possible, mais ce n'est point probable. En tout cas, voici une lettre du Béarnais qui peut jeter quelque éclaircissement sur le fait en litige. Nous n'en donnons, bien entendu, que les passages les plus compromettants. J'arrivais hier soir à Marans, où j'étais allé pour pouvoir à la sûreté de ce lieu. Ah, que je vous y souhaitais! C'est le lieu le plus selon votre humeur que j'ai jamais vu. Pour ce seul respect, suis-je prêt à l'échanger. Il y a toutes sortes d'oiseaux qui chantent de toutes façons. De ceux de mer, je vous envoie des plumes. Des poissons, c'est une monstruosité que la grandeur et le prix. Une grande carpe, 3 sous, et 5 un brochet. C'est un lieu de grand trafic, le tout par bateau. La terre très pleine de blé est très beau. L'on y peut être très plaisamment en paix et sûrement en guerre. L'on s'y peut réjouir avec ce que l'on aime et plaindre une absence. Je pars jeudi pour aller à Pons, où je serai plus près de vous, mais je n'y serai guère de séjour. Mon âme, tenez-moi en votre bonne grâce. Croyez ma fidélité être blanche et hors de tache. Il n'en fut jamais de pareil. Si cela vous porte contentement, vivez heureuse. Henri. Ce fut à Mont-de-Marsan que la liaison se fit. La belle veuve demeurait là et, tous les jours, s'il faut en croire d'Aubigné, allait à la messe accompagnée d'Esprit et la petite Lambert, d'un mort, d'un basque avec une robe verte, du magot Bertrand, d'un page anglais, d'un chien et d'un laquais. Fût-ce la beauté de la comtesse, fût-ce l'originalité de sa suite qui séduisit le roi, le fait est qu'il en fut amoureux de passion. À cette époque, Henri poursuivait son divorce et il s'arrêtait à l'idée d'épouser chaque femme dont il s'amourachait. Il s'en fallut de peu qu'il n'épousât Gabrielle. La mort de celle-ci en détruisit le projet. Et il fit à Madame d'Entragues une promesse de mariage que Sully déchira, comme nous le verrons plus tard. Quant à son mariage avec la comtesse de Guiche, il s'en ouvrit à d'Aubigné. C'était vouloir se faire rudement rembarrer. Celui-ci morigéna l'amoureux royal et lui fit jurer sa foi de gentilhomme que, de 2 ans, il n'aurait l'idée même d'épouser la belle Corisande. Henri promit, se réservant au bout de 2 ans, de faire sur ce point ce que bon lui semblerait, et d'Aubigné fut tranquille. Il savait parfaitement ce que duraient d'ordinaire les amours du roi. D'Aubigné se trompait sur la durée, mais non pas sur la violence de l'amour de celui qu'il appelait un ladre vert et le maître le plus ingrat qu'il y eût au monde. 2 ans après, Henri était encore l'amant de Corisande, mais il ne parlait plus de l'épouser. Il était au plus fort de sa passion quand il livra la bataille de Coutras, battit et tua Joyeuse. Avant la bataille et au moment de charger, il avait à ses côtés les 2 fils du prince de Condé, son oncle, assassiné à Jarnac, l'un qui s'appelait le prince de Condé comme son père, l'autre le comte de Soissons. La harangue du roi de Navarre fut courte. Il tira son épée. « Il n'est point besoin ici de longues paroles, dit-il. Vous êtes Bourbon et vive Dieu, je vous prouverai que je suis votre aîné. » « Et nous, répondit Condé, Nous vous montrerons que vous avez de bons cadets. » On sait le résultat de la bataille. La victoire fut complète. Les deux joyeuses y furent tuées. Le soir, on soupa au château de Coutras. Les cadavres des deux joyeuses étaient exposés, nus, dans une salle basse. Quelqu'un osa plaisanter sur les deux braves gentilshommes qui avaient mieux aimé se faire tuer que de fuir. « Silence, messieurs !» dit Henri avec sévérité. « Ce moment est celui des larmes, même pour les vainqueurs. » Puis, comme il fallait toujours, et dans quelque occasion que ce fût, qu'il eût de l'esprit, et surtout en vrai gascon, qu'il fît voir qu'il en avait, « Sire, monseigneur et frère, écrivit-il à Henri III, remerciez Dieu, j'ai battu vos ennemis et votre armée. » La bataille est gagnée, que croyez-vous que va faire Henri IV ? Profitez de ses avantages pour opérer sa jonction avec l'armée protestante qu'il a levée en Allemagne des deniers que lui a fournis en engageant ses biens la belle Corisande. C'est ce que lui eut ce conseiller d'Aubigné, Sully et Mornay. Mais lui ne les consulta point et s'en garda bien. Il prend les drapeaux ramassés sur le champ de bataille et s'en vient faire à la comtesse de Guiche un lit où il s'endort avec elle, tandis que le duc de Guise extermine son armée d'Allemagne. Il est vrai qu'un an après, Henri III faisait, pour le remercier, assassiner à Blois le duc de Guise et le cardinal de Lorraine. Il n'y a rien d'étonnant à ce que Henri de Navarre pensât à sa maîtresse au moment où il venait de vaincre. On va voir qu'il y pensait même au moment de mourir. Au mois de janvier 1589, le duc de Nevers assiégeait la Garnache, petite ville du Bas-Poitou. Henri accourut pour faire lever le siège. Le froid était violent. Il descendit de cheval, s'échauffa, se refroidit, tomba malade le 9 et pense à trépasser le 13. Le 15, il écrivait à la comtesse de Guiche. « Hier n'a pu être dépêché à cause de ma maladie, donc je m'envoie dehors, Dieu merci. Vous entendrez bientôt parler de moi à d'aussi bonnes enseignes qu'à Niort. Je ne puis guère écrire. Certes, mon cœur, j'ai vu les cieux ouverts, mais je n'ai pas été assez homme de bien pour y entrer. Dieu veut se servir de moi encore. En 2 fois 24 heures, j'étais réduit à être tourné avec le linceul. Je vous eusse fait pitié. Si ma crise avait duré 2 heures de plus, les vers auraient bien fait cher de moi. Sur ce point, me viennent d'arriver des nouvelles de Blois. Il était sorti de Paris 2 500 hommes pour secourir Orléans, menés par Saint-Paul. Les troupes du roi les ont taillés en pièces, de façon que l'on croit qu'Orléans sera pris dans 12 jours. Je finis parce que je me trouve mal. Bonjour, mon âme. » Par malheur, pour la comtesse de Guiche, quelques jours après sa guérison, le roi de Navarre rencontra Madame de Guercheville et en devint amoureux. La belle Corisande s'aperçut du changement qui s'opérait dans le cœur de son amant par l'oubli dans lequel il la laissa tout à coup. Alors elle lui envoya le marquis de Parabère, son cousin, pour savoir à quoi s'en tenir à l'endroit de ce silence. Henri, avec sa bonhomie ordinaire, confessa son nouvel amour. Mais, connaissant ses torts, il refusa de les réparer, se hâtant d'ajouter toutefois que, si son estime et son amitié pouvaient satisfaire la comtesse de Guiche, elle n'aurait jamais lieu de se plaindre de lui. La comtesse de Guiche connaissait Henri. Elle savait qu'une fois pareille déclaration faite, il n'y avait point à revenir là-dessus. Elle en prit donc son parti et accepta cette estime et cette amitié que lui offrait le roi de Navarre, et qu'en effet, celui-ci lui conserva toute sa vie. Mais il arriva à Henri une chose étrange à propos de ce nouvel amour. C'est que l'infidèle amant de la comtesse de Guiche trouva dans Madame de Guercheville la même résistance qu'il avait trouvée 15 ans auparavant dans Mademoiselle de Tignonville. Henri offrit le mariage, comme pourrait le faire de nos jours un étudiant à une grisette qu'il veut séduire. Mais la marquise lui répondit qu'étant veuve d'un simple gentilhomme, elle savait n'avoir aucun droit de prétendre à un pareil honneur. De sorte que Henri, voyant qu'il avait affaire à une place vraiment imprenable, y renonça. Et voulant qu'il restât à Madame de Guercheville un bon souvenir de cet amour qu'un roi avait eu pour elle, il la maria à Charles du Plessis, seigneur de Liancourt, comte de Beaumont, chevalier des ordres du roi, en lui disant « Puisque vous êtes vraiment dame d'honneur, vous le serez de la reine, quelle qu'elle soit, que je mettrai sur le trône par mon mariage. » Et, en effet, il tint parole. La marquise de Guercheville, devenue comtesse de Beaumont, fut la première dame d'honneur que le roi présenta à Marie de Médicis, devenue sa femme. Tandis que Madame de Guercheville faisait l'étonnement de ses contemporains en résistant au roi de Navarre, celui-ci prenait patience grâce aux bontés qu'avait pour lui Charlotte des Essarts, comtesse de Romorantin. Deux filles naquirent de cette intimité. L'une, Jeanne-Baptiste de Bourbon, légitimée par lettre du mois de mars 1608, l'autre, Marie-Henriette de Bourbon, qui mourut abbesse de Chelles le 10 février 1629. La première fut une femme remarquable. Nommée abbesse de Fontevraud en 1635, elle fit grand honneur à son ordre par son esprit, ses talents et sa fermeté. Elle obtint même un arrêt qui enjoignait au prieur de son ordre de lui donner le titre de mère en lui parlant et en lui écrivant. C'était un grand honneur que ce titre, à ce qu'il faut croire, et elle y tenait fort, à ce qu'il paraît, car, âgée de 90 ans, comme elle était près de mourir, le prieur de Fontevraud, qui l'administrait, lui dit en lui présentant l'hostie « Ma sœur, acceptez le saint viatique. » Mais elle, le regardant en face, « Dites ma mère, répondit-elle, un arrêt vous l'ordonne. » Elle n'avait pas eu toujours autant à se louer des arrêts rendus à son endroit. Le président de Harlay, entre autres, en avait rendu un contre elle, qui lui tenait si fort au cœur que, furieuse, elle courut chez lui, l'injuria presque, et acheva son discours en lui disant « Ignorez-vous donc, monsieur, que je suis du sang de Henri IV ?»« Oh oui, oui, madame, vous en êtes, répondit le président. » Et du plus chaud même, du plus chaud. Sa mère épousa, en 1630, c'est-à-dire à l'âge de 41 ans, François de l'Hôpital, seigneur du Hallier, comte de Rosnay, qui la considéra, dit son historien, comme veuve de prince. Vous voyez, cher lecteur, qu'il y a moyen de tout concilier et que les gens qui s'arrêtent aux choses, au lieu de jeter tout simplement sur elles le manteau brodé des mots, sont de grands imbéciles. À propos, nous avions oublié de dire qu'entre sa rupture avec Henri IV et son mariage avec François de l'Hôpital, elle avait eu 6 enfants du cardinal de Guise. Elle mourut vers le mois de juin 1751, puisque dans la lettre 24 de sa muse historique, Lauré annonce sa mort en ces termes. Lundi, la mort d'un coup fatal de Madame de l'Hôpital abrégea les jours et la vie, sans pourtant qu'elle en eût envie. Car le monde, elle n'a quitté, nonobstant son antiquité, qu'avec extrême répugnance, et sa dernière doléance ce fut de dire « Ah, jour de Dieu, faut-il que je m'en aille ? Adieu !» Pour monsieur son mari qui reste après cette perte funeste, au lieu de faire le pleureux, il doit se trouver très heureux, car s'il veut encore une femme, maintes mignonnes et maintes dames, et de grandes conditions, sont à sa disposition. Pendant la fleur des amours de Henri IV avec Charlotte des Essarts, des événements politiques de la plus haute importance, que nous consignerons en deux mots, s'accomplissaient. Henri de Béarn et Henri de Valois s'étaient raccommodés. La peur, dit l'Écriture, est le commencement de la sagesse. Henri de Valois avait eu peur en voyant son ennemi à 3 lieues de lui et il lui avait fait des ouvertures. Henri de Béarn n'avait eu garde de refuser cette paix que lui offrait le roi de France. L'entrevue eut lieu près de Tours, au bord d'un ruisseau. Huguenots et catholiques, qui combattaient depuis 20 ans, qui depuis 20 ans se faisaient une guerre d'extermination, se jetèrent dans les bras les uns des autres. Dès lors, il n'y avait plus qu'une France. La réconciliation des soldats avait précédé celle des chefs. Un instant, tout faillit être remis en question. Les pestes de cour, les dos, les villerois, les d'Entragues, qui avaient tout intérêt aux discordes royales, avaient, le premier pas fait en avant, fait faire à Henri III un pas en arrière. Le roi de Navarre résolut d'emporter d'assaut la réconciliation. Il se recommanda à Dieu, comme il faisait dans les occasions dangereuses. Celle-ci pouvait passer pour telle. Il s'engagea seul, ou à peu près, sur cette pointe étroite et dangereuse qui est découpée par le confluent de la Loire et du Cher. Henri III était au Plessis-les-Tours. L'autre, Henri, le Béarnais, portait son costume sacramentel, de sorte que rien ne le dissimulait à ses ennemis. Il courait gros risque d'une balle de pistolet, comme M. de Guise, ou d'une balle d'arquebuse, comme Coligny. Il avait son panache blanc, un petit manteau rouge, couvrant son pourpoint de buffle usé par la cuirasse, et ses chausses couleur feuille morte, qui était sa couleur de prédilection, n'étant pas salissante. Petit, ferme sur sa selle, grisonnant avant l'âge, il avait 35 ans à peine, avec son nez d'aigle et son menton de polichinelle, son œil vif, inquiet, œil de chasseur qui sondait les cœurs et les alliés. Il allait au devant de son royaume le cœur palpitant, mais la figure calme et souriante. Henri III venait d'entendre vêpres aux minimes. On l'avertit qu'une grande foule se précipitait et qu'au milieu de cette foule, un cavalier venait à peu près seul, causant et riant. « Par la mordieu, dit Henri III, vous verrez que ce sera mon frère de Navarre qui se sera lassé d'attendre. » C'était lui. La foule, en effet, était si grande que les deux rois furent quelque temps sans pouvoir se rejoindre. Ils se tendaient les bras, mais de loin. Enfin, le passage se fit. Henri de Navarre tomba à genoux et, avec cet accent qui n'appartenait qu'à lui, « Je puis mourir maintenant, dit-il, j'ai vu mon roi. » Henri de Valois le releva et l'embrassa. Ce furent alors des cris de joie qui semblèrent monter jusqu'au ciel. Il y avait des gens jusque sur les arbres. Le lendemain, le roi de Navarre alla au lever du roi de France avec un seul page. Il y avait quelque courage à cela, le sang du duc de Guise n'était pas encore essuyé sur le parquet du château de Blois. Il fut décidé que l'on irait assiéger Paris. Pendant ce siège, Jacques Clément, aux grands applaudissements des Parisiens et à la grande sanctification de son nom, assassine Henri III. En doute-t-on, non pas de l'assassinat, mais de la sanctification, qu'on lise le quatrain suivant. Un jeune jacobin, nommé Jacques Clément, un matin à Saint-Cloud, une lettre présente à Henri de Valois, et vertueusement, un couteau fort pointu dans l'estomac lui plante. Ce quatrain était écrit au bas d'une gravure, représentant le martyr du bienheureux Saint-Jacques Clément, périssant sous les hallebardes des gardes du roi. Force alors fut à Henri IV, notre héros était Henri IV depuis la mort de Henri III, force fut alors à Henri IV de lever le siège de Paris et de s'en aller à Dieppe attendre les secours que la reine Élisabeth devait lui envoyer. Il était fort pauvre en ce moment, l'héritier du trône de France, car en sortant de la chambre du mort, il avait mis son manteau violet sous son bras pour y tailler un pourpoint de deuil. Si Henri III n'eût pas été lui-même de deuil, Henri IV ne pouvait pas porter le deuil de Henri III. Quand nous disons qu'il était devenu Henri IV, nous devrions dire seulement qu'il s'était fait Henri IV, car beaucoup n'avaient pas voulu le reconnaître comme roi, qu'il reconnaissait comme général. Givry avait eu beau donner le signal de l'obéissance en se jetant à ses pieds et en disant « Sire, vous êtes le roi des braves et les lâches seuls vous quitteront. » Beaucoup de gentilshommes, qui n'étaient pas des lâches, l'avaient cependant abandonné. De sorte que, comme nous le disions, il était à Dieppe avec 3 000 hommes seulement. Mayenne l'y poursuivit avec 30 000 soldats. Il fallait vaincre ou être jeté à la mer. Henri vainquit à Arques. La victoire fut complète. C'est le soir même de cette victoire qu'il écrivit à Crillon le fameux billet. « Pends-toi, brave Crillon, nous avons vaincu à Arques et tu n'y étais pas. Adieu, Crillon, je t'aime à tort et à travers. » Henri. Henri avait toujours de l'esprit. Seulement, il en avait encore plus les soirs de bataille que les autres jours. Élisabeth envoya à Henri 5 000 hommes. Avec ces 5 000 hommes et 2 500 à peu près qui lui restaient après Arques, il reconduisit Mayenne sous les murs de Paris. Mais Paris était tellement fanatisé qu'il demeurait toujours imprenable. Pour imprimer cependant une certaine terreur aux habitants, il permit à ses troupes légères de faire une charge qui ne s'arrêta qu'à la moitié du pont Neuf, lequel, bâti en 1578 par Ducerceau, était alors véritablement le pont Neuf. C'est à cet endroit juste où s'arrêta cette charge que fut placée depuis la statue de Henri IV. D'Egmont arrivait avec une armée espagnole. Il fallut battre en retraite. Mayenne et d'Egmont firent leur jonction et poursuivirent Henri IV qu'ils joignirent dans les plaines d'Ivry, ou plutôt qui les y attendit. C'est là encore que le grand homme dont nous nous occupons, si grand devant l'ennemi, si faible devant ses maîtresses, dit quelques-uns de ces mots tellement populaires qu'il est presque impossible dans un travail comme le nôtre de les passer sous silence. Au moment de charger, « Mes compagnons, dit-il, vous êtes français et voilà l'ennemi. Si vous perdez vos enseignes, ralliez-vous au panache blanc de votre roi. Vous le trouverez toujours sur le chemin de l'honneur et de la victoire. » La gasconnade était un peu forte. Le succès en fit un mot historique. Puis, comme, la veille, par une parole dure, il avait blessé un de ses plus braves serviteurs, le colonel Schomberg, en présence de toute l'armée, il poussa son cheval près du sien et, à haute voix, afin d'être entendu de loin comme de près, « Colonel Schomberg, lui dit-il, nous voici dans l'occasion. Il peut se faire que je meure. Il ne serait pas juste que j'emportasse l'honneur d'un brave gentilhomme comme vous. Je déclare donc que je vous reconnais comme homme de bien et incapable de faire une lâcheté. Embrassez-moi. » « Ah, sire, répondit Schomberg, votre majesté m'avait blessé hier, elle me tue aujourd'hui, car elle m'impose l'obligation de mourir pour son service. » Et, effectivement, Schomberg, qui conduisait la première charge, pénétra jusqu'au cœur des Espagnols et y resta. Une de ces circonstances qui décident quelquefois, au nom du hasard, du succès d'une journée, faillit changer en défaite la victoire d'Ivry. Un cornette au panache blanc se retirait blessé hors de la mêlée. On le prit pour le roi. Par bonheur, Henri fut averti à temps. Il s'élança au milieu des siens qui commençaient à plier, tant rapidement s'était répandue la fatale nouvelle, et d'une voix tonnante, « Me voilà » cria-t-il, « me voilà ! Tournez vos visages vers moi, je suis plein de vie, soyez plein d'honneur. » Le dernier mot de la journée, quand Biron, en chargeant avec la réserve, eut décidé de la victoire, fut « Épargnez les Français ». Les deux victoires d'Arc et d'Ivry désarmaient Paris. Henri revint en faire le siège. En passant, il prit Mantes d'assaut. Le lendemain de l'assaut, il était si peu fatigué qu'il fit sa parmie de paume avec les boulangers qui lui gagnèrent son argent et ne lui voulurent pas donner sa revanche. En effet, de boulanger à meunier, il n'y avait que la main. En Gascogne, on appelait Henri IV le meunier du moulin de Bubaste. Alors, il eut l'idée de faire une niche à ces mauvais joueurs. Toute la nuit, il fit faire du pain et le vendit le lendemain à moitié prix. Les boulangers vinrent tout éperdus et lui donnèrent sa revanche. Il partit de Mantes à la grande joie de ceux-ci et vint mettre son quartier général à Montmartre. À Montmartre, à 100 pas de son quartier général, il y avait une abbaye. Dans l'abbaye, il y avait une jeune fille nommée Marie de Beauvilliers, fille de Claude, comte de Saint-Aignan, et de Marie Babou de la Bourdésière. Les Labourdésières, dont était aussi Gabriel Détré, étaient, dit Allemand des Réaux, la race la plus fertile en femmes galantes qui ait jamais fleuri en France. On en compte, dit-il, jusqu'à 25 ou 26, soit religieuses, soit mariées, qui ont toutes fait l'amour hautement. De là vient, continue le magistrat historien, qu'on dit que les armes de la Bourdésière, c'est une poignée de vesses. Car il se trouve, par une plaisante rencontre, que dans leurs armes, il y a une main qui sème de la vesse. On fit sur leurs armes le quatrain suivant. Nous devons bénir cette main qui sème avec tant de largesse pour le plaisir du genre humain quantité de si belles vesses. » Pour faire comprendre le trait renfermé dans ce quatrain, apprenons au lecteur de cette bienheureuse année 1866 que le mot « veste » et les mots « femme légère » étaient autrefois synonymes. Maintenant, comment cette famille, dont le chef s'appelait tout simplement Babou, devint-elle de la Bourdaisière? Nous allons vous le dire, puisque nous sommes en train de tenir sur notre prochain de méchants propos. Une veuve de Bourges, première femme d'un procureur ou d'un notaire, acheta un méchant pourpoint à la pourpointerie. Dans la basque de ce pourpoint, elle trouva un papier sur lequel étaient écrits ces mots. « Dans la cave de telle maison, à 6 pieds sous terre, à tel endroit, » l'endroit était parfaitement désigné, « il y a telle somme d'or en dépôt. » Le chiffre de la somme n'est point parvenu jusqu'à nous. La somme était forte, voilà tout ce que nous en savons. La veuve réfléchit. Elle vit que le lieutenant général de la ville était veuf et sans enfant. Elle l'alla trouver. Elle lui raconta la chose, qu'il écouta, vous comprenez bien, avec la plus scrupuleuse attention. Seulement, elle garda pour elle le secret principal, l'endroit où gisait la somme. « Il ne vous reste plus, dit-il, à m'apprendre qu'une chose maintenant. C'est tout et la maison. Soit, mais pour que je vous l'apprenne, il faut que, de votre côté, vous vous engagiez à une chose, vous. À laquelle ? M'épouser. » Le lieutenant réfléchit à son tour, regarda la veuve. Elle avait encore quelques restes de beauté. « Eh bien, va comme il est dit, » fit-il. Et les deux contractants passèrent un contrat par lequel, si telle somme était trouvée dans cette cave, le lieutenant général épouserait la veuve. Le contrat signé, on procéda aux fouilles. La somme fut trouvée complète. Le lieutenant général épousa la veuve et, de cette dot, si singulièrement apportée, acheta la terre de la Bourdaisière. De là vint que les Babous, qui s'appelaient Babou tout court, s'appelèrent Babou de la Bourdaisière. Pour en revenir à la galanterie des dames de ce nom, nous n'en citerons qu'un exemple. Il y avait une la Bourdaisière qui se vantait d'avoir été la maîtresse du pape Clément VII, de l'empereur Charles V et de François Ier. Peut-être aussi cette dame était-elle chargée de quelques missions diplomatiques entre ces trois illustres personnages.